Bonjour. Bonjour à ceux qui nous visitent, ceux qui sont de retour de vacances, ceux qui s'en vont en vacances, et bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet également, des gens un peu partout qui nous écoutent, et on veut certainement leur souhaiter la bienvenue. Juste avant de commencer, si vous voulez bien, on va juste se courber et on va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette assemblée, pour cette belle église, te remercier pour ta parole, surtout, qui nous guide, qui nous conduit, pour ton esprit qui nous aide à comprendre et qui nous aide aussi à marcher avec toi pour te plaire. Alors, on te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses bénir notre temps ensemble, parler à nos cœurs sur ces questions vraiment importantes qu'on trouve dans ce passage que nous allons voir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ah ben, permettez-vous que je réponde. C'est un texto, là, il faut que je réponde. Alors, on va répondre. Ça dit quoi, là? Allô, Normand, comment ça va? Es-tu là? Bien, on va répondre. Oui, mais je suis occupé. Oui, mais je suis occupé. Bon. Je suis obligé, non? J'ai une question très importante, puis ça brûle. Bon. Bien, bon, d'accord, vas-y. Mais je ne suis pas seul. D'autres verront ta question. D'accord? OK. OK. C'est pas grave? Bon. OK. Question? C'est quoi finalement? Est-ce que c'est mieux rester un célibataire ou se marier? Wow! Bonne question. Je vais poser ça à l'Assemblée. Aïe. Est-ce que c'est mieux être célibataire puis être marié? Puis si vous êtes marié, vous parlez pas, là. Il y a un frère au premier service qui est marié, qui a dit « Célibataire! » Oh boy! Lui, ça vient d'y coûter un souper au restaurant, lui. C'est sûr. Alors, c'est toute une question, ça. Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois, d'avoir des questions en lisant la Bible? Avez-vous remarqué, lorsque vous êtes venu au Seigneur, pour ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ, une des premières choses qui arrive, c'est que vous allez commencer à lire la Bible. Et là, vous avez tout un appétit, vous commencez à lire la Bible, et c'est une belle habitude à prendre, c'est de la nourriture spirituelle. Notre âme a besoin de ça, notre cœur a besoin de ça, c'est Dieu qui se révèle à nous. Donc, tu plonges dans les Écritures, tu commences à lire, et là, tu as un paquet de questions. C'est vrai, hein? Vous avez vécu ça? C'était la même chose avec les premiers chrétiens. En plus, les premiers chrétiens, eux, n'avaient pas le Nouveau Testament encore. Le Nouveau Testament était en train de s'écrire. Ils avaient l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament était en train de se rédiger. Mais Paul, ils avaient quelque chose d'intéressant et vraiment utile, c'est que Paul vivait. Et Paul a fondé plusieurs églises. Hein? Il était parti dans les voyages missionnaires, puis a commencé des églises, prêché l'Évangile. Il allait sur le bord des rivières, parlait de la Bible, et les gens se convertissaient, venaient au Seigneur Jésus. Et là, les gens avaient des questions sur la foi, sur la vie chrétienne. Alors, ils écrivaient, soit qu'ils écrivaient une lettre à l'apôtre Paul, leur demandant des questions sur différents sujets, ou ils envoyaient des gens qui rencontraient Paul sur la route, et leur poser des questions. Alors, ça arrivait très souvent que Paul recevait des lettres dans lesquelles se trouvaient des questions. Par exemple, si on prend la lettre aux Corinthiens, souvent Paul va faire allusion aux questions qui sont posées dans des lettres. Par exemple, regardez bien ceci, dans 1 Corinthiens, on voit ici la façon que Paul va commencer certains chapitres qui laissent entendre que des gens lui ont posé des questions. Par exemple, au chapitre 7, verset 1 de 1 Corinthiens, ça dit ceci, au sujet de ce que vous m'avez écrit. Alors, les gens posent des questions dans la lettre, au Corinthe, et il répond. Chapitre 7, d'ailleurs, ça va être une réponse. Chapitre 8, il dit concernant les viandes. On va voir ça dans les prochaines semaines. Concernant les viandes, vous avez des questions à ce sujet-là. Laissez-moi vous donner un peu ce que le Seigneur dit là-dessus. Chapitre 12, en ce qui concerne les dons spirituels. Vous avez des questions à l'égard des dons spirituels? Laissez-moi vous enseigner là-dessus. Et chapitre 16, en concernant l'entraide, la collecte en faveur des gens qui étaient démunis. On ramassait des fonds, des dons et tout ça pour aider les gens qui vivaient dans la pauvreté. On les aidait. Donc, il y avait plusieurs questions là-dessus en regard à l'offrande, aux dons. Alors, Paul va consacrer le chapitre 16 sur ce sujet-là. Donc, il répond. Quand tu arrives au chapitre 7, quand tu ouvres le chapitre 7, le chapitre regroupe certaines réponses qui sont données par les chrétiens lorsqu'ils écrivaient à Paul. Maintenant, les questions portent sur le sexe, le célibat et le mariage. Regardez quelques-unes des questions que Paul va répondre qui se trouvent dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens. La liste, c'est une bonne liste, là. Il répond, le chapitre est vraiment, là, regroupe plusieurs réponses à ces sujets-là. Le sexe, est-ce que c'est mal? Et on va voir pourquoi les gens, certaines personnes, avaient commencé à voir la sexualité comme souillée, comme mal, qu'il fallait s'en abstenir. Au point même que si tu étais marié, il fallait que tu cesses tout rapport sexuel. Et même dans certains cas, ça serait bien peut-être mieux de te séparer puis de divorcer pour ne plus avoir d'un rapport sexuel afin d'être plus spirituel. On avait cette notion-là qui circulait, que c'était mieux, tu grandissais spirituellement et ça nuisait à être marié dans ta spiritualité. Donc, ça courait, ça. Donc, le sexe, est-ce que c'est mal? Devrais-je me divorcer pour avoir plus de temps avec Dieu? Toutes ces tâches-là, etc., oh, il me semble que je pourrais passer mon temps à étudier sur Dieu, ça serait bien mieux. On me dit que de me marier, d'autres disent le contraire. Est-ce que c'est rester célibataire ou veuve, ou se marier, c'est quoi qu'il faut faire? Est-ce que c'est mal? Plusieurs se divorcent autour de moi. Est-ce que c'est correct? Mon conjoint n'est pas chrétien. Est-ce que je devrais le laisser? Trouver un autre mari, une autre épouse qui aime le Seigneur puis avec qui je vais pouvoir grandir dans la foi? Est-ce que je devrais faire ça? C'est une des questions qui circulent. Puis-je me marier avec un non-chrétien? Alors tout ça, c'est là, à l'intérieur de ce chapitre-là, chapitre 7. Donc ça regroupe, mon ami, comme on dit en anglais, it's a mouthful. Le chapitre 7 est vraiment, c'est plein de questions. Alors, les réponses de l'apôtre Paul sont révolutionnaires. À l'époque, des gens auraient lu sa réponse, les gens auraient été scandalisés de voir ce qu'il dit à propos de la sexualité, du célibat et du mariage. Complètement révolutionnaire. Et comme on l'a dit la semaine dernière, l'évangile, le christianisme a vraiment rehaussé la beauté de la sexualité, du célibat aussi et du mariage, comme on va voir ce matin. Ça a été révolutionnaire. Il y a des valeurs auxquelles on croit en ce moment, et même des gens athées vont adhérer puis vont dire, ah, moi je crois à ça, là, c'est important ça. Ils savent même pas qu'en réalité, quand tu recules, c'est les chrétiens qui ont amené ça dans la société lorsque l'évangile s'est répandu. Il y a des valeurs qui viennent du christianisme, qui se sont répandues à travers les années. Et notamment cette attitude à l'égard de la sexualité, comment la sexualité, le célibat et le mariage ont été rehaussés lorsque l'évangile est arrivé, lorsque le christianisme est entré dans le monde romain. Alors, les gens étaient fascinés dans le christianisme au début. Les gens étaient vraiment fascinés par les gens à Rome, dans l'Empire romain, qui était une société très moderne à l'époque. C'était la société la plus moderne de l'époque. En fait, on disait, c'était un peu la New York, le New York d'aujourd'hui. Et les gens de Rome, les gens dans l'Empire romain étaient fascinés vraiment par le christianisme. Ils trouvaient ça étrange, ils trouvaient leur valeur bizarre, mais il y avait vraiment deux aspects du christianisme qui fascinaient les Romains. Et c'était la générosité des chrétiens et deux, leur pureté, notamment la pureté sexuelle. Ça les fascinait. Ils trouvaient ça même dérangeant. Mais ça les fascinait. Bizarre, mais fascinant. Premièrement, la question de l'argent. Les chrétiens étaient très généreux avec leur argent. Ils donnaient une bonne partie de leurs revenus pour aider les démunis, les pauvres. On faisait pas ça avant. Je vous ai déjà expliqué comment on laissait même mourir les enfants. Il y avait tout l'infanticide et tout ça. Ce sont les chrétiens qui allaient de nuit prendre les enfants, les sauver, les adopter et prendre soin d'eux. Les chrétiens étaient très généreux à l'endroit des gens qui souffraient, prenaient soin des gens malades, des gens qui étaient orphelins, des veuves, des gens divorcés, qui n'avaient pas de support. Ce sont des chrétiens qui sont venus. Ils étaient très généreux à l'endroit des gens qui souffraient. Et ça, ça fascinait vraiment les gens de l'époque. Mais il y a une deuxième chose qui fascinait les gens de l'époque aussi, c'était la pureté sexuelle. Ils ne comprenaient pas ça. Les gens de Romains, ils disaient, voyons, ça n'a pas de bon sens. Premièrement, s'abstenir de sexualité. S'abstenir de sexe, c'est mauvais pour la santé. On disait ça dans le temps. C'est mauvais pour la santé. Puis deuxièmement, ils disaient, ça n'a pas de bon sens. C'est pas naturel. C'est impossible. Puis, en plus, l'idée de concevoir qu'un mari reste fidèle à sa femme toute sa vie, c'était impensable. Il disait, c'est pas normal, ça, de pas tromper ta femme. Dans le temps, la mentalité pensait comme ça. Puis, c'était pas limité juste aux hommes, bien sûr. Il y avait quand même des femmes, certaines femmes, qui suivaient le courant. Alors, imaginez, lorsque les chrétiens arrivent, ils étaient complètement déphasés avec leur temps, beaucoup plus qu'on peut l'être aujourd'hui, quoiqu'il y a beaucoup de ressemblances avec aujourd'hui. On voyait leurs valeurs comme impossibles, déconnectées de la société moderne. Et pourtant, malgré qu'on trouvait les chrétiens et leur message étrange, c'est les chrétiens qui l'ont emporté, le message, c'est le christianisme qui l'a emporté. Le message de l'Évangile s'est répandu dans tout l'Empire romain et s'est répandu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui critiquent aujourd'hui, vont dire, ah, la religion, franchement, c'est dépassé, c'est plus, ça n'a pas de bon sens. Avec la société aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, la religion, ça va mourir, c'est en train de mourir, ça baisse. Les gens s'intéressent de moins en moins à Dieu. En fait, il y a un nouveau livre qui vient de sortir de Tim Keller. Ça vient tout juste de sortir en 2016, ça va être traduit probablement dans un an, qui s'intitule « Making Sense of God, an Invitation to the Skeptical ». Alors, donner un sens à Dieu, invitation aux sceptiques, dans lequel il fait état d'une étude qui a été menée et qui révèle que 4 personnes sur 5, ça représente, hey, mon doux, 80, 4 personnes sur 5 dans le monde entier trouvent que c'est censé de croire en Dieu. Non seulement ça, c'est que la religion n'est pas à la baisse, mais elle est à la hausse. Certaines personnes vont critiquer, vont dire, ouais, mais ça, c'est normal, c'est les gens qui sont pas éduqués, qui ont la foi. J'ai déjà entendu ça, moi. La foi, vous autres, les chrétiens, ben, ça, c'est une béquille, la foi, c'est une béquille pour les faibles. Je sais pas si j'avais déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu ça. On m'a déjà dit ça. Mais en fait, non. Quand tu regardes la communauté de croyants, tu vas voir d'éminents scientifiques, des grands penseurs, de grands philosophes qui disent que c'est intelligent et sensé que de croire en Dieu. Et c'était pareil au premier siècle. Alors même que la pureté sexuelle n'était pas attirante, l'Évangile a pris une grande expansion, s'est étendu partout, jusqu'à nous. Les gens étaient attirés par le message de l'Évangile. Parce que malgré qu'il y avait des choses qui étaient comme qui repoussait certaines personnes, de voir les vies transformées des gens, des foyers qui étaient brisés, qui se rebâtissaient lorsque l'Évangile entrait dans le foyer, des gens tout d'un coup qui avaient du bonheur dans le mariage, des enfants qui grandissaient, et ils ont vu le fruit de l'Évangile, et plusieurs ont donc été attirés par les fruits de l'Évangile, et ils sont venus au Seigneur Jésus. Donc, indépendamment qui tu es, où tu te trouves, si tu te trouves au secondaire, tu te trouves au cégep, à l'université, ou sur le marché du travail, tu as cette pression autour de toi qui dit, voyons, t'es ridicule d'attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles. Ben voyons donc, c'est dépassé tout ça. Ne laisse-toi pas impressionner par ça, parce que les gens n'étaient pas impressionnés au premier siècle, et pourtant l'Évangile s'est répandu à travers le monde. Lorsqu'ils ont vu la puissance de l'Évangile transformer des vies. Donc, tiens bon, marche avec le Seigneur, et tu vas voir, Dieu va bénir. Et si on met en pratique 1 Corinthiens 7 ensemble, sur ce qui est enseigné sur les principes, sur la sexualité telle que Dieu la voit, et comment Dieu voit le célibat, et comment Dieu voit le mariage, si on commence à mettre ça en pratique, et probablement que nous aussi, nous aurons la joie de voir plein de gens venir au Seigneur Jésus-Christ, comme au premier siècle. Alors, que dit le Seigneur sur la sexualité, sur le sabbat et sur le mariage, qui a autant influencé bousculer le monde moderne du temps? Eh bien, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7. Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 7. On va lire une portion du chapitre. On ne lira pas tout le chapitre, il y a 40 versets, c'est assez long. Mais on va lire une portion. Vous avez ici les références à l'écran. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, on va commencer avec le verset 1. On va lire jusqu'au verset 16, après ça, verset 27, verset 28, 39 et 40. Alors, dans le fond, on va lire la moitié à peu près. On va choisir quelques versets, mais ça représente une vingtaine de versets. Alors, si vous êtes avec moi, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis si un frère et une femme non croyante et qu'elle soit d'accord à habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Et si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Le verset 27 maintenant. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront les souffrances dans leur vie. Et je voudrais vous les épargner. Verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Beaucoup, beaucoup de détails dans ça, dans ce passage-là. Maintenant, pourquoi tant de questions sur la sexualité, le célibat et le mariage? C'est qu'il y avait deux visions vraiment de la sexualité à l'époque qui circulaient à Rome. La première, on l'a vu la semaine dernière, il y avait premièrement la première philosophie qui disait, bien, comparait la sexualité à de l'appétit. Il dit, c'est comme quand tu manges de la bouffe. Alors, on comparait ça comme de la bouffe. Quand tu as faim, tu vas, tu te nourris. Mais c'est la même chose pour la sexualité. Si tu as des désirs, comble ces désirs-là. C'est tout à fait naturel. Parce que, vois-tu, on séparait le corps avec l'esprit, avec le cœur. On faisait une distinction du corps. Le corps, c'était pas important vraiment ce que tu faisais avec ton corps. Tu pouvais coucher avec qui tu voulais, quand tu voulais, tu n'as aucun problème. Le corps, c'est pas important. Donc, Paul va arriver, il arrive avec une attitude tout à fait révolutionnaire à l'époque, à l'endroit de la sexualité. Tout à fait différente. Paul va dire, non, ton corps, t'es pas comme un animal là, qui se nourrit, tout ça, c'est comme la bouffe, là. C'est pas vrai ça. Ton corps est important, il est spécial même aux yeux de Dieu. Et même Paul va donner un message, un seul message dans chapitre 6 vers la fin, il va dire, abstenez-vous de toute souillure sexuelle. Et il donne 7 raisons pour ça. En fait, c'est des raisons où ça élève le corps. Ça vient corriger cette erreur qui circulait, que le corps n'était pas important. Il dit, non, n'oublie pas. Il dit, ton corps a été libéré pour servir Dieu. Ton corps a été créé pour la gloire de Dieu. Là. Dieu t'a fait à son image. Ton corps est sous les soins de Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix pour sauver non seulement ton âme, ton cœur, mais il est allé à la croix aussi pour sauver ton corps, parce que ton corps va entrer dans l'éternité et va servir Dieu dans l'éternité. Regarde ton corps avec cette valeur-là. Oui, il sera transformé. Tu vas recevoir un nouveau corps lorsque tu vas rentrer au ciel. Ce sera un corps glorifié. Néanmoins, ton corps, Jésus est allé à la croix pour ton corps aussi, te racheter pour que tu puisses entrer dans l'éternité avec un corps glorifié, sanctifié. Ton corps est éternel. Ton corps représente les membres de Jésus-Christ. C'est un peu comme la deuxième incarnation de Jésus, si tu veux, c'est l'Église. On voit ça un peu plus loin dans 1 Corinthiens, que l'Église est comparée à un corps. Nous sommes les membres. Jésus est la tête, le chef suprême de l'Église. Et nous sommes les membres. Tu représentes Jésus-Christ lorsque tu sors. Ton corps s'investit entièrement dans une relation sexuelle. En d'autres mots, Paul va expliquer au chapitre 6 que la sexualité, c'est pas juste une question physique. Tu t'investis entièrement, ton cœur, tes émotions et spirituellement aussi. Et septièmement, ton corps appartient au Seigneur. Il a racheté ton corps et ton cœur à un grand prix, nous dit verset 17. Et un jour, tu vas te retrouver dans les bras, tu vas pouvoir te jeter dans les bras de l'ultime amoureux, suprême et parfait, Jésus-Christ, lorsque tu vas entrer dans l'éternité. Ça, c'était la première vision de la sexualité à l'époque. C'est que vraiment, c'est comme tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de retenue, vas-y, t'es libre. Un peu comme aujourd'hui, on pense comme ça. Alors, ils vont dire, on a besoin, il faut s'aimer. Mais c'est plus que ça dans les Écritures. Parce que l'amour, vois-tu, est défini dans les Écritures, dans Corinthiens 13. Et ce qu'on découvre, le vrai amour authentique, c'est un amour qui se réjouit de la vérité, qui est la parole de Dieu. Vous savez, la plus grande marque d'amour n'est pas une relation sexuelle, mais c'est de vouloir changer pour l'autre et prendre un cœur de serviteur. C'est ça qu'on découvre dans les Écritures, et ça va tellement à l'encontre de ce qui s'enseigne et circulait aujourd'hui et à l'époque. Mais il y avait une deuxième vision sur la sexualité aussi. Deuxième vision. Et ça allait à l'autre extrême. Et tu sais, souvent, c'est ce qui arrive. C'est que lorsqu'il y a, c'est déréglé, puis ça va tellement loin d'un côté, on a tendance à devenir légaliste de l'autre bord, puis on tire la couverture jusqu'à l'autre côté. Puis c'est ce qui est arrivé, où des gens ont commencé à voir la sexualité comme mal, vraiment mal, comme anti-spirituel. Et ça commençait à s'infiltrer dans l'Église. Et là, les gens commençaient à s'abstenir vraiment de tout rapport sexuel. Ils se séparaient de leur femme, de leur mari, ils se divorçaient même. C'est incroyable parce que la notion circulait que ça nuisait à ta croissance spirituelle si tu restais avec ton conjoint et si tu avais des rapports sexuels. Et c'est à ça que Paul va faire référence au verset 1. Le verset 1 dit ceci, au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme, littéralement ça dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, une expression qu'on va retrouver souvent dans les documents d'époque qui fait référence à la sexualité, c'était comme ça qu'on parlait de la sexualité. Alors regardez, c'est bizarre comme verset, il est bon pour l'homme de ne pas avoir de relation sexuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas Paul qui dit ça. Paul est en train de citer quelque chose qui était écrit dans la lettre qui lui avait été envoyée. Il cite ce qui est dit dans la lettre. Parce que voyez-vous, dans le grec de l'époque, on mettait pas de guillemets entre des phrases. Il fallait déduire lorsqu'il s'agissait d'une citation. Donc, pour nous, aujourd'hui, la façon qu'on lirait ça, ça serait, au sujet de ce que vous m'avez écrit, entre guillemets, il est bon. Alors, vous avez écrit ça. Certains chez vous croient qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Ferme le guillemet. Voici ce que j'en pense. Et là, Paul va donner la révélation de Dieu sur la perspective divine de la sexualité, le célibat et le mariage. Il va corriger toutes sortes d'erreurs qui circulaient dans le temps. D'accord? Non seulement ces gens se distançaient de toute intimité avec leurs femmes, mais en plus, ils mettaient de la pression sur les autres couples de l'Église qui fassent la même affaire. t'avais cette pression dans l'Église que tu devrais vraiment laisser ton mari, là. Tu veux grandir spirituellement, tu devrais le laisser, l'abandonner. Ou ta femme. Il croyait que quitter son mari, se divorcer de sa femme, allait te rendre, dans le fond, plus spirituel. Mais Paul va corriger ça, cette erreur-là. Il va prendre l'occasion aussi de nous exposer la vision de Dieu sur le sexe, le célibat et le mariage. Maintenant, on va commencer avec le mariage, on gardera ensuite le célibat, puis ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder le message que Paul donne aux deux, célibataire et marié. Paul ne dit pas tout sur le mariage, il ne dit pas tout sur le divorce ici. Il y a d'autres enseignements sur le divorce, sur le mariage, ailleurs dans les Écritures. La Bible est une révélation complète, mais elle est progressive. En d'autres mots, c'est la volonté de Dieu qui est complète, mais tu ne trouveras pas dans un seul passage toute la révélation de Dieu sur un sujet. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin, quand tu veux te limiter à un sujet, comme, mettons, le mariage ou le divorce, etc., tu vas regarder tout ce que les Écritures disent. Il y a des concordances pour ça pour t'aider, il y a des livres pour ça pour t'aider. Alors, mais ce que Paul dit sur le mariage dans ce chapitre, ce qu'il dit finalement du mariage, il en dit plus, il répond à plus de questions sur le mariage que partout ailleurs dans la Bible. En d'autres mots, il n'y a pas un autre passage dans les Écritures qui donne autant de révélations sur le mariage que nous avons ici. Oui, il y a des passages dans Genèse qui parlent de la procréation, de la famille, etc. Multipliez-vous. On parle dans Éphésiens 5 qui donne aussi tout ce beau tableau du mariage qui parle de remplir, rencontrer les besoins de l'autre. Et ça parle que le couple, le marié, est une image, en fin de compte, au grand mariage qui est Jésus et son Église. Ici, Paul va parler de d'autres détails. Donc, c'est pas complet, il faut savoir, il faut se souvenir de cela, mais ce qu'il dit, par contre, c'est une révélation de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous, et en le faisant, il va rehausser tellement l'attitude vis-à-vis de la sexualité, le mariage et le célibat, qui est révolutionnaire. Paul commence donc au verset 1, et ce qu'on voit, c'est que le christianisme a changé la vision du mariage. Quelques-unes dans l'Église avaient commencé, peut-être par réaction avec ce débordement, cette vie déréglée qu'il y avait dans la société, tout ça, et que certains, même dans l'Église, avaient, parce que rappelons-nous, il y a des gens, le chapitre avant, il y a des gens qui allaient voir des prostituées et tout ça, là. Donc, peut-être par réaction ou par une philosophie qu'on voyait, une philosophie qui circulait chez les Grecs, qu'on on voyait le corps comme mal, charnel et tout ça. À cause de ça, certains, par un excès de zèle, sont devenus légalistes. Et ils ont décidé de se distancer de leur conjoint. Mais en le faisant, ils négligeaient leur responsabilité envers leur épouse ou leur mari. Paul va donc corriger cette perception de la sexualité et du mariage. Puis en faisant ça, il va faire ressortir les avantages du mariage. Mais il nous donne aussi une vision biblique de la sexualité. Premièrement, il dit « le mariage favorise la pureté sexuelle ». Et c'est ce qu'il dit au verset 2, il dit « pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari ». Maintenant, on peut comprendre ça, certainement. Dieu nous a créé des êtres sexuels, c'était dans sa volonté de Dieu. Et ce que l'on voit dans les Écritures, la sexualité, c'est beau, c'est un don de Dieu pour les couples mariés. Alors, on comprend ça, qu'il peut y avoir des luttes, des tentations ici. Dieu nous a créé comme ça. Alors, le mariage nous aide, favorise, en fin de compte, la pureté sexuelle. Elle contribue. Mais deuxièmement, le mariage, c'est une source de bonheur. C'est ça que Paul va dire. Ça devrait être une source de bonheur. Il faut travailler là-dessus. C'est le péché qui a entaché notre perception de la sexualité, de l'intimité dans le couple, de la communication dans le couple, la communion, l'affection et tout ça. Et notre perception du sexe, tout ça a été affecté, entaché par la sexualité. Mais la Bible, elle, n'a pas de gêne à parler des joies et de la sexualité dans le mariage. Elle n'a pas de gêne à en parler. D'ailleurs, nous lisons dans Proverbes 5, verset 18, regardez ce qui suit. « Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Biche des amours, gazelle pleine de grâce, enivre-toi sans cesse de son amour. Très romantique, ça, hein? C'est romantique. Puis la Bible n'a pas de gêne à parler des joies d'un couple, de l'intimité d'un couple. On pense justement au cantique des cantiques qui tourne autour de l'attirance sexuelle et des déplaisirs d'un couple marié. D'ailleurs, même les rabbins empêchaient les jeunes rabbins de lire le cantique des cantiques. Il fallait que tu aies au moins 30 ans pour lire cela. C'est très romantique. Et ici, au verset 3, voici ce que dit le Seigneur, voici ce que dit Paul, inspiré de Dieu, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari de même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. L'idée ici, c'est d'avoir du plaisir sur le plan sexuel comme couple. Et ça, c'était révolutionnaire dans le temps. Dans le temps, on voyait pas le plaisir sexuel à l'intérieur d'un couple marié. Regardez bien, et là, je ne dis pas ça pour vous choquer, mesdames, mais pour vous aider à comprendre l'atmosphère dans laquelle l'Évangile est arrivé et comment le christianisme a rehaussé la perception de la sexualité. Regardez comment on parlait à l'époque à Rome. Voici ce qu'on disait. Nous gardons les maîtresses pour le plaisir, les concubines pour les besoins quotidiens du corps, mais les épouses pour nous donner des enfants légitimes. Voyez-vous comment les gens pensaient à l'époque, là? C'est ça qui circulait, là. C'est comme ça, là. Paul arrive, puis change tout ça. Il dit, non, il dit, c'est pas juste pour avoir des enfants, là, t'es marié. Tu donnes du plaisir à ta femme. Tu vas lui faire plaisir, tu vas prendre soin d'elle, tu vas t'occuper d'elle. Et la même chose vice-versa. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit. Maintenant, ça répond aussi à ceux qui voyaient la sexualité comme mal. Paul est en train de dire, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Vous ne pouvez pas vous abstenir de l'abstinence sexuelle dans le couple marié, tout ça. Non. Ce qui est spirituel, c'est pas de vous séparer, mais c'est d'avoir cette intimité dans le couple. Et ce qui est vraiment intéressant dans le passage, c'est comment Paul, le ton que Paul va prendre, il y a un ton tellement plein de douceur, de tendresse. Il y a beaucoup de délicatesse. C'est pas forcé, c'est pas manipulé, c'est pas tu me donnes du sexe, là, puis là, tu culpabilises l'autre, puis tu ne vois pas ça ici, tu vois plein de tendresse. On parle d'affection. Il y a de la douceur dans les propos de Paul. De faire plaisir à l'autre. Dieu a voulu que la sexualité soit beaucoup plus que juste physique, des gestes physiques. Dieu a établi les rapports sexuels pour que ce soit vraiment l'expression et l'expérience de l'amour au niveau le plus profondément humain, de même qu'un lien puissant et merveilleux. Alors, troisièmement, le mariage a toujours besoin de resserrer son intimité. Tu as besoin de construire ton unité, ton intimité avec ton conjoint. Il faut y travailler. On peut prendre des distances à un moment donné. Et il faut faire attention, il faut veiller. C'est important. J'entends des fois les arguments qui vont me dire, « Oui, mais je l'aime plus, mon mari. » Bien, des études ont démontré que si tu reprends le travail à bâtir l'unité, en dedans de 5 ans, tu vas retomber en amour avec ton conjoint, comme tu étais probablement au début. Ce ne sera jamais pareil parce que tu as grandi. Ce sera même encore plus mature comme amour, mais ça se retrouve. N'accepte pas ça comme argument, « Oui, mais je l'aime plus. » Parce que ça se retrouve, c'est prouvé, les études le démontrent, mais il faut y travailler. Et Paul est en train de dire, là, il faut s'investir dans le couple pour bâtir ces liens, cette intimité, il faut resserrer les liens. Verset 5 dit, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, mais retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. » Certains chrétiens de Corinthe croyaient que c'était plus spirituel de s'absenter de son conjoint et vivre en célibataire. Dans le fond, tu vis en célibataire alors que tu es marié. Paul disait non, t'es marié, vis comme un couple marié qui s'aime, qui s'investit dans la relation. Tu ne dois pas négliger, dit Paul, ta femme et tes enfants. Tu as besoin de prendre soin d'eux. Tu ne peux pas briser cette intimité. Tu dois le bâtir, tu dois resserrer les liens de plus en plus. Mais ça prend du temps pour ça. Il faut que tu investisses du temps. Là. Et si tu décides d'aller à l'écart pour un temps, pour aller prier ou étudier la Bible, bien, parle-en à ta femme et obtiens son accord et vice-versa. Et ça, c'était révolutionnaire en passant. Dans le temps, tu ne demandais pas l'avis de ta femme. Il y avait une autorité suprême, le mari, imaginez. Paul est en train de dire, non, tu vas demander vraiment l'accord de ta femme. Tu vas aller voir ta femme, tu vas lui demander. Qu'est-ce qu'elle en pense? En d'autres mots, vous allez bâtir votre unité. Mais ça, c'était révolutionnaire, ça, parce que l'homme faisait ce qu'il voulait, le mari faisait ce qu'il voulait, il ne demandait rien à sa femme, il faisait juste annoncer, bon, en passant, je m'en vais, là. Puis il partait. Paul disait, non, tu t'en iras pas de même, tu vas aller la voir, puis vous allez ensemble travailler, puis vous allez vous entendre. C'était phénoménal, ça. C'était un choc pour les gens de l'époque à Rome. Faut que tu ailles voir ta femme, tu lui demandes la permission. On fait ça ensemble. C'était nouveau. Puis encore là, tu t'entends que si tu t'en vas pour combien de temps? Parce que les gens exagéraient. Vois-tu, il y avait même un débat chez les rabbins. Alors, quand tu es rendu qu'il y a un débat même chez les rabbins, c'est parce qu'à quelque part, il y en avait plusieurs qui le faisaient. Il y avait un débat chez les rabbins pour savoir combien de temps tu allais partir. Si finalement tu décidais d'aller étudier la Bible, tu décidais de partir, combien de temps tu allais partir? Croyez-le ou non, le fils du rabbin, Judas le prince, est parti pendant 12 ans, loin de sa femme et ses enfants, pour aller étudier la Bible. Vous dites, 12 ans, ça n'a pas d'allure. Il y en a un autre, un rabbin, qui est parti pendant 24 ans, loin de ses enfants et sa femme, pour aller étudier la Bible. C'est fou. Paul dit, non, c'est pas plus spirituel. Au contraire, tu manques de spiritualité à ne pas prendre soin de tes enfants et de ta femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Et ça, c'était révolutionnaire. À l'époque, les hommes, les maris avaient une autorité suprême. On appelait ça patria potesta. C'était une autorité suprême. Tu décidais, puis tu avais une décision importante à prendre. Tu appelais tes chums, puis tu allais les voir, puis tu convoquais un comité de gars, puis là, tu prenais la décision ensemble. Puis là, tu annonçais ça à ta femme. Tu dis, en passant, voici la décision que j'ai prise. Bye. C'est fou, là. Paul dit, non, tu vas aller voir ta femme, tu vas lui demander ce qu'elle en pense. Tu feras absolument rien si tu n'as pas son accord. Tu vas travailler avec son accord et vice-versa. En d'autres mots, construisez votre unité, resserrez les liens, bâtissez là-dessus. Maintenant, il faut travailler l'unité parce qu'on a différentes personnalités. C'est normal. Et en plus, on est deux pécheurs. On va s'accrocher. D'ailleurs, le mariage, c'est un long voyage vers, et c'est là le but qu'on voit dans les Écritures, de s'améliorer de plus en plus. On veut s'investir dans la vie de l'autre, pour qu'elle s'améliore, pour qu'il s'améliore, devienne de meilleur en meilleur, devienne tout ce que Dieu a voulu pour lui. C'est ça le mariage. Donc, ça va. Il va y avoir des accrochages, des couples qui s'aiment. Je reçois des téléphones des fois, des couples se marient. Lune de miel et tout ça, mon ami, ils sont en amour, tant comme wouh! Puis c'est sharp, c'est le fun, on est content pour eux. Puis nous autres, on est là avec quelques cheveux gris, quelques cheveux blancs. Puis on dit, oh mon ami, ça va venir du voyage à noces, ça là, puis tu vas voir. Puis tu le sais, tu vois le caractère de chacun, il y a du torque, puis c'est correct ça, c'est correct. Puis tu sais, c'est bon. Puis là, c'est comme là, ça a du torque, puis tout ça, puis comme de fait, ça revient voyage de noces et tout ça, puis... Et combien de rencontres j'ai faites de couples qui sont venus voyage de noces, puis c'était le voyage de noces, ça a été comme, vraiment pas voyage de noces, ça a été épouvantable. Ah, mon doux. On est deux pécheurs. Il faut travailler, c'est du travail. Oui, il y a d'autres couples qui ont des tempéraments plus simples. Et c'est tellement cool, c'est simple, la vie est simple. Ils n'ont pas un tempérament fougueux, tu sais. Il y en a d'autres, tempérament plus, il y a du torque. C'est correct. C'est beau, c'est un don de Dieu, tout ça. Tu veux travailler à te maîtriser, évidemment. Tu veux travailler, tout ça, et tu as besoin de le faire. Et c'est correct, il faut travailler, il faut s'investir dans notre couple. Ça prend du temps, absolument. Deuxièmement, quatrièmement, le mariage, c'est permanent. Oui, évidemment, il y a des situations délicates. Il y a des situations, on comprend. D'ailleurs, même la Bible en parle dans Matthieu 19 et ailleurs. Il va y avoir des situations où finalement, ultimement, ça finit par un divorce, par une séparation. On comprend ça. Il y a des situations où il y a de la violence dans le couple. D'accord. Voici le principe. On donne le principe. Et le Seigneur comprend ces choses-là. Mais voici le principe. Le principe, c'est de ne pas aller trop vite, trop facilement là. Le mariage, il y a une permanence là. Et en d'autres mots, c'est de ne pas chercher la porte de sortie trop vite. Investis-toi dans ton couple. Il y a certains cas, oui, Dieu permet évidemment le divorce ou la séparation, on comprend ça. Mais le permanent, le mariage aux yeux de Dieu, c'est permanent. Et verset 10 dit ceci, que la femme ne se sépare pas de son mari, verset 11, et que le mari ne divorce pas sa femme. Rappelez-vous ce qui circulait dans le temps, là. Les gens voulaient se séparer, puis ça se laissait, etc., puis ça se divorçait, puis ça se remariait. Le divorce était tellement, tellement facile dans ce temps-là. Savez-vous comment on se divorçait dans ce temps-là? Hey, aujourd'hui, tu prends un avocat, médiation, tout ça, ça prend un let's go. Là. Dans ce temps-là, comment tu te divorçais? Tu avais juste une phrase à prononcer, la suivante. Tuas res tibi habito. Qui veut dire en français? Prends tes affaires, puis sors. Et tu devenais, en prononçant cette phrase, tu devenais légalement divorcé. Alors imagine, combien de gens se retrouvaient dans la rue? Alors, il y a beaucoup de divorces à l'époque. Vous allez être surpris. Taux de divorce. Il n'était pas rare. D'ailleurs, même très souvent, tu pouvais te marier plus de 20 fois. Incroyable. C'est ça qui se passe dans le monde dans le temps, là. C'est contre cette culture-là, c'est dans cette culture-là que l'Évangile arrive et va rehausser la beauté de la sexualité du mariage puis du célibat. Voyez-vous comment le christianisme a influencé, a eu tout un impact sur la société de l'époque. Et aujourd'hui, on est là, même les incroyants, les athées sont là, puis on dit, « Oh, le mariage, c'est important, l'amour, etc. » Mais savais-tu que ça vient des chrétiens, ça? Ça vient de l'Évangile? C'était certainement pas comme ça avant. Hein? C'est l'influence du christianisme qui est rentré, puis qui a eu tout un impact dans la société. Regarde la société. Je fais un tableau ici, je vous montre dans lequel, comment l'Évangile est entré dans une société. Sénèque qui vivait, un contemporain de l'apôtre Paul dit ceci. Il était même attristé de voir le nombre de remariages et divorces et tout ça. Sénèque, un contemporain de Paul, s'attristait que plusieurs femmes, et c'est lui qui dit ça, plusieurs femmes de son époque avaient eu autant de maris que d'âge. En d'autres mots, tu pouvais savoir l'âge d'une femme par le nombre de maris qu'elle avait eu. 30 ans, 30 maris. C'était fou, là. C'était facile se divorcer. Maintenant, il y a plusieurs raisons qu'il y avait tellement de divorces, tellement de remariages. L'une d'elles, c'était la facilité du divorce, mais une autre chose aussi, c'est une question de santé, l'espérance de vie. À l'époque, l'espérance de vie, ça montait à peu près à 30 ans, à cause d'un manque d'hygiène, la pauvreté, la violence, la famine, il y avait des grosses famines. Justement, Paul, dans le chapitre 7, parle des temps difficiles qu'il voudrait nous épargner. Ça fait probablement allusion à une grosse famine de l'époque qui est venue frapper les gens. Et c'était atroce, la pauvreté, tout ça, la destruction de Jérusalem. Quelques années après, en 70, il n'y a pas de nourriture. Donc, l'espérance de vie qui était limitée pas mal à 30 ans dans le temps, seulement 5 à 6 % des gens atteignaient les 60 ans. 30 et 60 à 60 personnes sur 100 000 allaient jusqu'à 90 ans. Question de santé, mais il y avait d'autres raisons aussi. Alors, le divorce, la simplicité du divorce, les décès, l'argent, le statut. Après tout, si je laisse mon mari puis je marie lui, lui il est riche, il est millionnaire, c'est un homme d'affaires, etc. Je veux marier lui puis je veux devenir riche. Alors ça circulait aussi. Question de statut, question de préférence. Chez les rabbins, il y avait tout un débat à savoir peux-tu divorcer, puis dans quelle occasion. Puis il y avait un groupe de juifs qui disaient, bien, si tu vas en fond, tu peux divorcer, ça a brûlé tes toasts. D'autres disaient, mais si tu lèves un matin et tu ne te trouves plus vraiment aussi belle qu'avant, laisse-la là, trouve-toi-en un autre. Vous pouvez voir, hein? Voyez-vous qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Alors, merci pour l'Évangile. C'est incroyable comment l'Évangile a fait. Rappelez-vous la Samaritaine, elle s'enlignait pour son sixième mariage. C'était courant à l'époque. Maintenant, si le divorce était facile, le mariage était obligatoire aussi. Si tu tombais veuve, tu étais tenu par la loi romaine, tu étais tenu de te remarier en dedans d'un an ou deux ans. Sinon, on te donnait une amende. On t'infligeait une amende si tu ne te mariais pas en dedans de deux ans. C'était une veuve. Et si tu étais divorcé, tu étais tenu de te remarier en dedans de six mois. Sans ça, tu recevais des amendes. Alors, imaginez la pression sur les gens de marier, absolument marier, marier, marier. Il faut que tu te maries. Je vais avoir une amende, j'ai pas l'argent, etc. Mais Paul va arriver, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, le célibat, c'est bon le célibat. C'est correct d'être seul, d'être une personne célibataire. C'est super. Il va parler en bien du célibat, alors qu'à l'époque, on n'avait pas une belle réputation des célibataires. Et là, Paul va dire, ne vous privez pas l'un de l'autre. Travaillez à votre intimité. Restez ensemble. Ne vous séparez pas. Puis faites pas juste vous endurer. Tu as entendu ça? Quand il y a des gens, des couples, mon ami, il me dit, bon, ben écoute, moi je suis un chrétien, je peux pas me divorcer. Alors, on va être toffé. Hein? On va être toffé. Toffé mon mari. On va toffer ma femme. Mon ami, c'est triste. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, non, non, non. Fais pas juste toffer. Fais-lui du bien. Fais-lui plaisir. Garde-la. Regarde, Proverbe 5, 18. J'aime bien ce que la version de la Bible de français courant qui dit ceci. Remplis-la de bonheur. Trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Remplis ton conjoint de bonheur. Garde-la. Fais-lui du bien. Ah, imagine, c'était révolutionnaire cette histoire-là. Jamais on aurait cru le mariage, on aurait vu le mariage comme ça. Quoi? Garde-la. Fais-lui du bien. Garde-le. Hein? Vas-y. Donne-toi. Sortez. Amusez-vous. Bâtissez votre unité. Ah, imagine. C'est romantique, ce passage-là. Hein? Ça, c'est la vision du mariage, celle que Dieu l'entend. Voyez-vous, l'Évangile aura aussi le mariage, mais non seulement ça, il aura aussi le célibat aussi. Il y a toute une vision du célibat ici dans ce passage-là. On n'aura pas le temps de lire tous les versets en regard au célibat, mais essentiellement, ce que Paul dit, il dit ceci, il dit, écoutez, le célibat, c'est bon, honorable, c'est même excellent. Comme diraient mes ados à quelque part dans la famille, là, c'est full cool. Être célibataire, c'est full cool. Êtes-vous célibataire ici? Y a-t-il des amen? Y a-t-il quelqu'un qui est heureux d'être célibataire? Vous devriez l'être, les amis. Parce que c'est... Paul dit, écoute, c'est full cool. On ne voyait pas ça comme ça dans le temps. Dans le temps même, on regardait ça avec une mauvaise réputation. On disait, ouais, mais là, vous n'êtes pas en train d'obéir à Genèse 1, à être fécond, etc. Donc, il y avait cette notion-là que, dans le fond, même les célibataires étaient désobéissants à Dieu. Alors, imaginez toute la pression que les gens avaient à se marier. Mais le christianisme arrive et dit, non, le célibat, c'est bon, c'est excellent même. Stanley Howes, qui s'est spécialisé à cette époque-là, il dit, il fait l'observation suivante, il dit que le christianisme a été la première religion à élever le célibat au rang de mode de vie valable pour un adulte. Il continue, il dit, presque toutes les cultures et religions anciennes faisait de la famille et des enfants une valeur absolue. L'honneur ne pouvait pas être celui, l'honneur ne pouvait être que celui de la famille et la transmission du nom et des biens, ce qui était impossible sans héritier. On percevait les célibataires dans l'Antiquité comme s'ils avaient des vies incomplètes. Certains philosophes percevaient le mariage même comme un devoir le plus respectable, un devoir le plus respectable chez un citoyen. Imaginez la pression que les gens avaient à marier leurs enfants. D'ailleurs, même chez les Juifs, c'est encore pire. On disait, on enseignait, si tu ne maries pas ta fille à l'âge de 12 ans, t'en fais une prostituée. Imagine la pression qu'il y avait sur des familles là, de marier leurs enfants. Si tu ne le maries pas à l'âge de nubile ou à l'âge de 12 ans, tu en fais une prostituée. Ah, la pression énorme qu'il y avait. Mais là, le christianisme arrive et change tout ça. Ça va rehausser toute la vision du célibat. Paul dit, c'est super la vie de célibataire. Oh, le temps que vous allez pouvoir passer à la cause de l'Évangile, le temps que vous allez pouvoir vous investir à faire avancer le royaume de Dieu. Vie incomplète? Absolument pas. Savez-vous que Paul était célibataire? Oui, on pense que peut-être il avait déjà été marié, peut-être dans le passé, qu'il était veuf, à cause du statut qu'il avait, pharisien, rabbin, tout ça. On pense qu'il était probablement marié, mais là, il dit, moi, je vais rester seul, je vais m'investir dans le royaume. Est-ce que c'est une vie complète? Savez-vous que Paul était devenu le plus grand théologien du monde entier? Savez-vous que Jésus, qui est le fondateur du christianisme, était célibataire et c'était l'homme parfait? Incomplet? Absolument pas. Il dit, c'est super être célibataire. C'est incroyable être célibataire. Les avantages que vous avez être célibataire, dit Paul. Mais il comprend aussi que c'est un don. Il y a un don de célibat. Il comprend qu'il y a des luttes à ce niveau-là aussi. Absolument. Alors, 1 Corinthiens 7, Paul dit que le célibat, c'est une bonne chose. Il est béni par Dieu. Préférable au mariage même, dans la mesure que c'est possible. Et vous savez, pour aider les veuves, aider les célibataires, aider les personnes démunies, divorcées, tout ça, l'Église n'a pas juste dit, Paul n'a pas juste dit, vous pouvez rester célibataire, c'est correct rester célibataire, c'est bon rester célibataire. Mais ils ont retroussé leurs manches, puis ils sont venus en aide à aider les veuves, ils ont vraiment sorti le portefeuille, puis ils ont commencé à soutenir financièrement les veuves. Ils avaient tout de même une liste de soutien financier aux personnes démunies. Les chrétiens faisaient ça. Prenez soin d'eux. On voit d'ailleurs dans Acte 6, hein, tout ce comité d'entraide qui prend place pour aider les gens avec la nourriture et tout ça. Alors, le mariage, c'est bon. C'est bon. Célibataire, super. C'est quoi le message aux deux? Bien, attachez-vous au Seigneur, parce que le temps est court. C'est ça que Paul va dire à travers tout ça. Le message qui va ressortir dans tout ça, c'est attachez-vous au Seigneur, car le temps est court. Regardez le verset. Et ça, c'est le fil conducteur dans tout ça. Maintenant, Paul va parler plusieurs choses dans ce contexte-là. Il y a une diapo aussi qui parle de ça, je pense que c'est juste avant, qui donne toute la liste ici des sujets. Paul va répondre. Il dit, mariés, si vous êtes mariés, restez ensemble. Mariés, épanouissez-vous. Célibataires et veuves, c'est bon de rester comme ça. Mariés, deux croyants, restez mariés. Mariés, un croyant, s'il veut rester, reste. S'il tient à partir parce qu'il veut rien savoir que tu es chrétienne et tout ça, puis il veut partir, laisse-le partir. Dieu nous appelle à vivre en paix. T'es célibataire, c'est bien, reste comme ça si tu le peux. Femmes mariées, veuves, celles qui sont mariées, restez ensemble. Et les veuves, c'est bien de rester comme ça. Et là, il dit à travers tout ça, le message qu'il va donner, c'est celui-ci. Attachons-nous. Mariés ou célibataires, attachons-nous au Seigneur, parce que le temps est court. Voici ce qu'il dit au verset 29. Il dit, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Il n'est pas en train de défaire ce qu'il vient de dire. Au contraire, il vient de dire de prendre soin de nos femmes, nos maris, de prendre soin d'eux et de leurs besoins. Non, ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne veux juste pas que vous oubliez la priorité ultime, c'est de placer Jésus-Christ au centre de votre foyer. Et il dit, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne réjouissaient pas, que ceux qui s'attachent comme s'ils ne possédaient pas, qui achètent plutôt, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils ne s'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Et mes chers amis, en d'autres mots, tout ce qu'on peut bâtir ici, c'est temporaire. Le Seigneur revient bientôt et on va rentrer dans l'éternité, passer notre éternité avec le Seigneur, où nous allons retrouver notre vrai foyer, l'ultime foyer parfait. Amen. Donc, célibataires, mariés, attachons-nous au Seigneur, car le temps est vraiment court. Prions. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur. Certainement, nous voulons prier pour certains couples ici qui en arrachent, qui ont de la difficulté, qui luttent et qui ont besoin de ton aide. Ils ont besoin d'une intervention dans leur foyer, dans leur vie de couple. Et Seigneur, nous croyons que tu peux faire des miracles dans des vies de couple. je ne peux faire autrement que de penser à ce couple qui avait été séparé pendant 11 ans, Seigneur. 11 ans. Et lorsque la femme s'est convertie, elle a téléphoné son mari. Elle est revenue avec lui. Et le couple est venu au Seigneur. Tous les enfants se sont convertis. Et ce couple-là était heureux, heureux, jusqu'à la fin de leur jour. Oui, Seigneur, je les connais personnellement. Je les ai baptisés, toute la famille. Et je suis tellement heureux, Seigneur, de ce que tu as fait dans leur foyer. Seigneur, les foyers, peut-être, ici, ont besoin de ton intervention, de ton aide, de ton secours. Peut-être des hommes ou des femmes qui souffrent en secret, qui sont dans la douleur. Seigneur, on te prie que tu redonnes, que tu mettes ta bonne main sur ces foyers, que tu apaises les cœurs, que tu donnes la paix dans les cœurs et que tu fortifies ceux qui connaissent les divorces, les séparations, que tu leur donnes du courage, la force qu'ils ont besoin de passer à travers tout ça. Seigneur, on te prie que tu nous aides, nous les gens mariés, à être de meilleurs maris, de meilleures épouses, à faire du bien à notre conjoint, à prendre soin d'elle ou de lui, à être généreux avec notre temps, notre argent, nos talents aussi. Seigneur, on te prie pour les célibataires de cette assemblée. On réalise qu'être célibataire aujourd'hui, entouré de toute cette pression sexuelle, avec tout ce qui se passe autour, c'est si facile de se laisser emporter par cette pression. Mais comme on a vu, comment les premiers chrétiens se gardaient et comment ça a bousculé une génération entière et même jusqu'à aujourd'hui. On te prie pour les célibataires de cette assemblée, que tu puisses les aider, leur donner la victoire. Tu as déjà acquis la victoire à la croix, Seigneur. Tu as acquis la victoire. La victoire est à nous. Nous voulons la saisir, la prendre. Et on te prie, Seigneur, donc que tu puisses fortifier nos célibataires, les bénir, de faire du bien, qu'ils grandissent en toi. De la même manière pour nous les couples, pour ta gloire, Seigneur. Et nous te remercions que Jésus nous a rachetés à la croix. Nous te remercions qu'un jour nous allons entrer dans l'éternité, retrouver notre ultime amoureux, l'amoureux parfait. Nous allons nous jeter dans ses bras et nous allons nous aimer pour l'éternité. Oui, Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus.